Maintenant, on va entendre Mélanie Poulain, division de transport aérien, section locale 4092. Elle est bien à Toronto maintenant, où elle a le bonheur de travailler comme agent de bord depuis 11 ans. Elle est membre de la bande des Premières Nations de Bearskin dans le nord-ouest de l'Ontario, où l'Ojibwe est le dialecte autochtone largement utilisé. Elle a d'abord été introduite aux activités de nature syndicale et politique lorsqu'elle est devenue membre de l'Association des étudiantes et étudiants de l'Université de Winnipeg, où elle a obtenu un bac en sociologie et en justice criminelle. Elle participe activement aux activités de sa collectivité autochtone en prenant part au cercle de partage et aux conférences de motivation destinées aux jeunes des collectivités éloignées de la nation Anishinaabe-Aske. Elle aime retourner dans sa collectivité natale pour visiter Omushumum et Unukukum, son grand-père et sa grand-mère, pour des occasions spéciales. Elle était également présidente du comité des femmes de la section locale au sein de la division de transport aérien depuis 2006. Elle a assisté à de nombreuses conférences organisées par le mouvement syndical et offert son aide lorsque nécessaire. Sa consœur Mélanie, s'est jointe au Conseil national des Autochtones de ce pays il y a un an. Elle a depuis participé à des rassemblements, assisté à un congrès, pris part à une marche avec ses consœurs militantes et confrères militants concernant les préoccupations et les femmes des Premières Nations, la violence au travail, et Mélanie Poulain. Alors bonjour. Tout d'abord, je veux reconnaître la Première Nation Kanawaki qui nous accueille sur son territoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la protection des femmes contre la violence au milieu du travail. 19 ans après les assassinats de 14 jeunes Québécoises au Québec, à Montréal, notre travail n'est pas terminé en matière de violence à l'égard des femmes. Cette violence a lieu chez nous et au milieu du travail. Nous sommes à risque parce que nous sommes dans les tranchées. Nous sommes les fournisseurs de services au pays, travailleuses sociaux, réceptionnistes, caissières, infirmières, enseignantes et agentes de bord. Trop souvent, nous sommes les victimes de violences aux mains des patients, clients, étudiants, voyageurs aériens qui sont frustrés et en colère quand ils n'ont pas les services nécessaires. La violence sexiste est très répandue et tolérée. Et c'est le reflet de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ça renforce les inégalités et met en danger la dignité, la sécurité et l'autonomie des victimes. Les femmes travailleuses sont victimes de toutes sortes de violences. La violence physique et émotive dans le milieu du travail se fait par des moyens psychologiques et verbaux. D'après Statistique Canada, c'est l'activité sexuelle forcée ou une tentative d'activité sexuelle ou toucher, embrasser quelqu'un. La violence physique, c'est une attaque physique où la personne est battue. Il y a aussi la menace de blessure avec une arme. La violence et l'harcèlement fait partie de la violence émotive parce que ça baisse la productivité et ça cause de l'absentéisme, et bien sûr, ça occasionne des plaintes. En 2004, on a fait un sondage et on a découvert que 17 % des incidents de violence comprenaient assaut sexuel, vol à main armée, etc. C'était dans le milieu du travail. Il y a eu plus de 356 000 incidents de violence au Canada et c'est violence au travail se trouve dans certains secteurs d'emploi. Par exemple, 33 % des cas de violence comprend une victime qui travaille dans les services de santé ou dans les services sociaux. Encore, dans des services de résidence et de services alimentaires, et ensuite dans les services éducatifs. La violence à la famille affecte le travail. D'après l'Institut américain de la violence au sein de la famille, trouve que ces victimes perdent 8 millions de jours de travail rémunérés par année. C'est l'équivalent de 32 000 emplois à temps plein. Il y a des conséquences physiques immédiates, des blessures, hospitalisation, dommages émotifs et autres impacts sur la société, comme le coût économique de cette violence. Ses répercussions se sentent sur le milieu du travail, perte de productivité et augmentation du nombre de jours de congé de maladie. Les femmes sont affectées de différentes façons. Et que ce soit à la maison ou au travail, ça nous affecte partout, dans tous nos rôles. Nous sommes les soigneuses traditionnelles de la société, mais nous perdons ce qu'il faut pour être une mère de famille, grand-mère, sœur ou amie. Historiquement, les agentes de bord sont toujours stéréotypées. Ça nuit et ça cause la violence. On nous appelle toutes sortes de choses depuis longtemps, ce qui renforce ces stéréotypes négatifs. Des termes comme matelas volant et l'idée qu'on a un homme dans chaque aéroport sont fausses. N'oubliez pas, bien sûr, le club à 7000 d'altitude. Ce sont des stéréotypes créés par des hommes pour plaire aux hommes et elles sont fausses. Ces stéréotypes encourage des passagers à avoir des comportements inacceptables, comme violence et assaut. Jusqu'aux années 70, la violence sexuelle était traitée à la légère. C'est toujours vrai. Les agentes de bord doivent porter des vêtements très sexy. Et les passagers masculins voyaient même les sous-vêtements des employés qui étaient obligés de fermer les comportements supérieurs. Dans la ligne aérienne Pacific Western, on a sanctionné un employé qui ne voulait pas porter ses sous-vêtements sexy. Elle a refusé de porter son uniforme parce qu'un employé l'a touché. Il y a eu donc un arbitrage qui a mis fin à ses uniformes sexistes. Les agents de bord sont aussi victimes d'assauts à d'autres occasions, dans les hôtels. Parfois, il y a un employé qui accompagne l'agente ou la personne dans sa chambre d'hôtel pour faire une inspection. Alors donc, c'est très problématique dans des pays étrangers où les cas d'assaut et de violence sexuelle ne sont même pas entendus dans ces pays étrangers. Pour moi, il s'agit d'un problème qui me touche particulièrement. Moi, mon expérience de la violence, c'est l'abus quotidien des passagers qui sont en maudit et qui nous lancent des objets, peut-être parce que je n'ai pas assez de journaux pour chaque membre, pour chaque passager, et on m'appelle idiote. À la fin de la journée, je suis dévalué, sans valeur et confuse. Dans nos conventions collectives, il n'y a rien pour nous protéger contre la violence. Les employeurs écoutent toujours les clients, mais quand il s'agit de protéger les travailleurs, c'est frivole, c'est pas important. Et les victimes sont encouragées à laisser tomber le tout. Dans notre convention collective avec Air Canada, on a des paragraphes là-dessus. L'article 10 touche la violence au sein de la famille. Air Canada reconnaît que les femmes sont souvent victimes de violences à la famille et ne veulent pas sanctionner un employé qui perd du travail à cause de ces violences. Aussi, d'après l'article 12, Air Canada doit respecter le Code du travail et le Code des droits de la personne. Il y a des changements essentiels au Code des droits de la personne dans les lois touchant le travail et les normes de travail. Il est important de formaliser le tout avec les femmes des autres sections, des autres syndicats et dans votre collectivité. La Fédération du travail de l'Ontario a en cours une campagne contre la violence au travail. Il faut des changements législatifs et il faut des règlements robustes et réels. Les travailleuses canadiennes ont besoin de règlements pour la santé et la sécurité où on définit la violence comme étant un danger dans toutes ses formes et de toutes ses causes. Il nous faut une loi des normes de travail pour concilier les femmes victimes d'abus qui doivent trouver une nouvelle résidence et qui ont besoin de temps pour la guérison. Encore plus, chaque employeur doit offrir un programme d'aide aux employés pour des employés qui sont victimes de violences, car ces personnes-là ont besoin d'aide. Et les travailleuses ont besoin d'un lieu de travail sûr et sécuritaire. Et les Canadiennes doivent avoir une assurance qui va couvrir le harcèlement verbal et émotif. Nos conventions collectives sont un outil très utile pour confronter ces dangers. Les femmes doivent être unies pour voir les délégués syndicaux, les présidents de sections locales, afin d'avoir des conventions collectives qui nous protègent. Car changer la loi, ça prend du temps. Tandis que la convention collective est une voie d'accès plus rapide. Tout le monde va profiter d'un milieu de travail libre de violence et de harcèlement. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'équilibre entre les femmes qui sont victimes à la maison et au milieu du travail. Le système est injuste et donc les abuseurs détiennent toujours le pouvoir. Nous, les féministes, nous devrons éduquer et on devrait accepter la responsabilité de changer le statu quo. Ensemble, on peut tout faire. Et il faut... Qu'est-ce qu'il existe comme aide? Eh bien, nous, les syndicalistes, nous appuyons nos consoeurs. Nous avons des fournisseurs de services, on a des programmes d'aide aux employés. Il faut se renseigner sur toutes les ressources nécessaires, sur toutes les ressources qui existent dans notre syndicat. Tournez-vous vers l'aîné si vous êtes autochtone. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne méritez pas d'être victime. Ça ne figure pas dans votre description de tâche. À titre de syndicaliste, nous avons la tâche d'informer les autres consoeurs et de sensibiliser tout le monde, y compris le grand public. Il faut organiser des manifs et il faut organiser des activités avec nos autres syndicats. Il faut organiser des cercles de partage pour parler de des répercussions de la violence. Nos aînés peuvent nous aider à traiter de la violence. Il faut faire en sorte qu'on prenne ça au sérieux et que la violence ne soit plus acceptée. En guise de clôture, je tiens à remercier les organisateurs et le CFP qui écoutent la voix des femmes et qui organisent une conférence si fantastique qui va habiliter nos consoeurs.